lui causer, sans que jamais il le montrât. Et alors, elle songea à sa propre bêtise, car assurément, elle l'aimait en retour. Elle aimait sa petite tête rousse, elle aimait sa maladresse, elle aimait la timidité et le courage que celle-ci cachait. Elle aimait sa force aussi, celle dont il faisait preuve chaque jour en soutenant inlassablement ce vieil ours d'Andreas et cette petite peste d'Alice. Elle aimait la douceur de sa voix, comme celle de ses gestes. Elle aimait ses mains, qui avaient caressé ses cheveux. Elle aimait ses yeux, elle aimait son regard. Elle l'aimait. La vérité soudaine, la clarté, l'authenticité de ce sentiment si longtemps refoulé, la frappèrent comme frappe un arbre la foudre. Et cette commotion violente fut tout à la fois salvatrice, libératrice, exaltante et terrifiante. Elle éprouva le besoin immédiat de faire quelque chose, de réparer ce qu'elle avait abîmé. Ainsi, Alice, prise d'une lubie subite, courut vers la petite cellule où on les avait logés, prit dans son sac les outils de Luc, et ayant trouvé un moine qui parlait sa langue, elle lui demanda de la conduire au jardin. Chapitre 147. Prenant le trousseau de clés à sa taille, le frère bibliothécaire traversa la pièce et ouvrit l'une des petites niches où il conservait les ouvrages les plus précieux. Il en sortit un codex sur parchemin, qui semblait très ancien, et le posa délicatement sur un pupitre. « Ce codex est très précieux, » expliqua-t-il d'une voix grave et profonde. « Aussi, je vous demande de le manipuler avec la plus grande précaution. » C'est le manuscrit original de l'Itinerarium Egeriae, qui date du début du 5e siècle. Et à ma connaissance, il n'en existe qu'une seule copie, laquelle a d'ailleurs été réalisée ici même il y a plus de 200 ans, par un copiste de l'abbaye du Mont Cassin. Le nom de l'auteur n'est pas mentionné sur ces pages, mais nous savons maintenant, grâce aux historiens qui sont venus ici l'étudier, qu'il s'agissait d'une femme, une Galicienne érudite, qui s'appelait Égérie, et qui fit en l'an 380 un pèlerinage en Terre Sainte, qu'elle raconta ensuite dans ce récit en latin, rédigé à Constantinople. Vous y trouverez des informations sur ces lieux avant la construction du monastère, ainsi que sur le buisson.
« Merci beaucoup, frère bibliothécaire. » Le caloyer hocha la tête et retourna à son bureau.
Andreas adressa à son apprenti un sourire enthousiaste. C'était exactement le genre de document qu'il cherchait. Il était antérieur à l'édification du couvent et donc au déplacement du buisson. Et avec un peu de chance, l'auteur y donnait quelques informations précises sur la position de celui-ci. Partant, ils parcoururent ensemble et frénétiquement les premiers chapitres de ce récit de voyage, où était relatée la visite du Sinaï. Égérie y racontait ses séjours dans les établissements du monachisme oriental, qui en ce temps étaient fort nombreux sur la péninsule. Elle consacrait en particulier plusieurs chapitres au mont Sinaï, sur lequel se réunissaient donc déjà des moines avant même la construction du monastère. Le passage concerné commençait ainsi.
« Interea ambulantes per venimus ad quendam locum, ubis et amen montes illi, inter quos ibamus, aperiebant et faciebant, valem infinitam, ingens, planissima, et valde pulcram, et trans valem apparebat mons sanctus, deicina. »
Sur la page suivante, apparaissait la première mention du buisson ardent. Haec ergo valis ipsa est, in cuius capite ilie locus est, ubi sanctus Moises, cum paceret pecora soceri sui, iterum locutus est, eideus derubo inigne. Andreas enthousiaste serra vigoureusement le bras de son apprenti. Ce texte leur apprenait au moins une chose. Le buisson existait déjà plus d'un siècle avant la construction du monastère. Mais cela ne donnait aucune indication plus précise sur sa situation, seulement qu'il était à la tête de cette vallée. Avec passion,